13h10 en temps universel et 8h10 à Panama, l'heure d'un nouveau journal des Amériques avec Adrien Delgrange. Bonjour Adrien.
Bonne journée Marion Kazanov et bonjour à tous. De Buenos Aires à New York, de Port-au-Prince à La Paz, soyez les bienvenus dans votre journal des Amériques.
Radio France Internationale.
Au sommaire de ce 10 juillet, le coronavirus poursuit ses ravages dans les Amériques. Dans ce journal, exemple au Panama où les hôpitaux sont au bord de l'effondrement, le personnel soignant s'insurge et vous l'entendrez. En Bolivie, nous avons appris que la présidente Jeanine Áñez a été testée positive au coronavirus. Elle va bien et se met à l'isolement pour continuer de travailler, dit-elle. Reportage à suivre en Argentine où une partie de la population commence à trouver le temps long. Ça va bientôt faire 3 mois qu'à Buenos Aires, des restrictions sont imposées aux habitants pour cause de coronavirus. Tout autre sujet dans ce journal, au Brésil, la déforestation de l'Amazonie atteint des records. Et puis nous reviendrons longuement sur cette décision de la Cour suprême américaine. Elle valide la demande d'un juge new-yorkais qui réclame des déclarations d'impôts du président Trump. Analyse à suivre avec notre invité, l'universitaire Paul Shore, et commentaires également à suivre dans la revue de presse des Amériques.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Inquiétude donc au Panama où le nombre d'infections au coronavirus augmente très rapidement. En 2 semaines, il est passé de 200 à 1000 contaminations par jour. Le milieu médical tire la sonnette d'alarme face au risque d'effondrement d'un système hospitalier. Domingo Moreno est le directeur de la Commission médicale nationale au Panama.
Indudablemente que la extensión de la pandemia en el país.
Sans aucun doute, la propagation du coronavirus au Panama auprès des plus vulnérables et dans les zones où la densité de population est la plus forte a entraîné une augmentation des cas de contamination. Il y a aussi davantage de tests qui sont effectués chaque jour. Ils se sont multipliés depuis que nous avons ouvert 2 nouvelles unités de dépistage. Le nombre de cas de contamination a augmenté de manière spectaculaire et dangereuse. Les mesures qui sont prises pour lutter contre le virus doivent s'accompagner d'un renforcement des effectifs et du matériel médical proportionnellement au nombre de cas. Si le nombre de contaminations continue à ce rythme des 1000 cas détectés par jour, le système de santé ne pourra pas résister 2 semaines de plus. Il est probable qu'il s'effondre.
Des propos recueillis par Carlos Pissarro. Il est 10h12 à Buenos Aires où l'épidémie de coronavirus s'accélère en Argentine. 1720 morts recensés dans le pays. Les habitants de la capitale sont confinés depuis maintenant 113 jours. À Buenos Aires, la grogne monte contre cet isolement prolongé. Reportage signé Haute-Villiers Moriamé.
Des milliers de personnes masquées se dirigent vers l'obélisque. Le 9 juillet est jour de fête nationale en Argentine. Les manifestants tiennent à la main des drapeaux bleu ciel et blanc. C'est le cas de Julieta Biscayart, 41 ans, qui appelle le gouvernement à assouplir le confinement.
Je suis pour le confinement parce que c'est une mesure qui est censée laisser au gouvernement le temps de s'organiser. Mais là, cela fait plus de 110 jours. Cela ne peut pas durer autant de temps.
Le nombre de cas de coronavirus est en augmentation depuis quelques semaines dans le Grand Buenos Aires, d'où la décision des autorités de prolonger le confinement. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans un pays qui traverse déjà une grave crise économique depuis 2 ans. Mirta Gutiérrez est une jeune retraitée qui se montre très critique vis-à-vis de la gestion du nouveau président de centre-gauche, Alberto Fernandez.
Je ne suis pas d'accord avec la gestion du gouvernement. En 6 mois, le pays est quasiment détruit. Les petites et moyennes entreprises sont détruites. Je suis moi aussi affectée parce que dans ma famille, certains ont perdu leur emploi. Nous sommes dans une situation critique.
Le confinement en vigueur dans le Grand Buenos Aires est prévu jusqu'au 17 juillet. Mais alors que l'Argentine vient d'entrer dans l'hiver austral, la mesure a de grandes chances d'être prolongée au-delà de cette date. Haute-Villiers Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Invité du Journal des Amériques, l'universitaire Paul Shore, retour avec lui sur les décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis, décision sur les déclarations d'impôts du président Donald Trump, un revers en demi-teinte pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Véronique Guémard.
Bonjour Paul Shore.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'Université de Paris et vous avez donc suivi de près ces 2 décisions rendues hier par la Cour suprême des États-Unis concernant les documents financiers du président Donald Trump. Des décisions qui disent globalement que personne n'est au-dessus des lois, pas même le président américain.
Oui, donc c'était 2 décisions qui étaient très attendues. En fait, la Cour suprême avait annoncé avant à quelle heure elle allait les publier. Et effectivement, ces deux décisions importantes qui rappellent que personne aux États-Unis n'est au-dessus des lois, pas même un président en cours de mandat. Et donc, c'est à la fois dans le prolongement du conflit précédent qu'il y a eu avec Nixon et avec Clinton, mais d'affirmer que le pouvoir judiciaire peut s'imposer à un président des États-Unis en cours de mandat, alors que Trump avait prétendu qu'il avait une immunité absolue. La Cour suprême, dans les deux décisions, dit qu'il y a une immunité, mais elle n'est pas absolue, et que dans certains cas, il peut être obligé de devoir communiquer au juge ou éventuellement au Congrès les documents demandés.
Voilà, alors donc la première décision stipule que le président ne bénéficie pas effectivement de cette immunité totale, qu'il doit donc produire des documents si un procureur l'exige. Donc ça constitue un revers pour Donald Trump.
Sur le fond, c'est clairement un revers pour Trump puisqu'il a défendu depuis le début de son mandat l'idée qu'il était au-dessus des lois et protégé par le mandat. D'un autre côté, Trump, avec ses avocats, depuis le départ, joue la montre. Et là, il est possible, enfin il est même sûr que même s'il sera obligé de communiquer donc les pièces comptables que demandent les juges, il pourra faire traîner ça jusqu'à après l'élection de novembre. Donc une lecture possible, c'est de dire qu'en fait la Cour suprême, dans la question de la séparation des pouvoirs, place aussi le pouvoir judiciaire au-dessus du pouvoir législatif, en fait, dans ces deux cas.
Alors justement, Donald Trump a tweeté en majuscule « chasse aux sorcières », mais finalement, il s'estime victime d'un acharnement politique, mais il s'agit justement d'une décision de la Cour suprême, c'est une décision judiciaire.
En fait, là où Trump est un peu pris à son propre piège, c'est qu'il a voulu politiser très fortement le pouvoir judiciaire, bon, ce qui existait déjà avant, puisque notamment à la Cour suprême, les juges sont nommés soit par des présidents démocrates, soit par des présidents républicains. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juges ne font pas forcément ce que le président qui les a nommés attendait d'eux. Et là, dans cette décision, les deux décisions d'hier qui ont été signées par 7 juges contre 2, les deux juges que Trump a nommés ont signé les décisions, alors que lui se vantait justement d'avoir... C'était aussi ce qu'il disait à ses électeurs. Il disait « j'ai mis des juges conservateurs à la Cour suprême qui vont pouvoir protéger notre point de vue ». Et là, en fait, on imagine aussi qu'une partie de la colère de Trump vient du fait que les juges ne lui obéissent pas, y compris ceux qu'il a nommés lui-même.
Et ce n'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs.
Non, puisque c'était déjà arrivé avec le précédent du juge Gorsuch sur la question des droits des homosexuels, qui avait contredit en fait ce que demandait Trump.
Alors justement, on revient à la deuxième décision où la Cour suprême là va pas autoriser effectivement le transfert des documents financiers de Trump au Congrès avant l'élection de novembre. Donc finalement, les électeurs n'auront pas connaissance de ces feuilles d'impôts. Mais finalement, au fond, quel est l'enjeu pour Trump de ne pas avoir à dévoiler ces feuilles d'impôts, ces documents comptables ?
Il y a d'une part des soupçons de fraude fiscale, qu'il aurait manipulé dans les deux sens la valeur de sa fortune. Soit à certains moments, il l'aurait gonflé pour pouvoir obtenir des prêts bancaires sur la base d'une fortune surestimée. À d'autres moments, il l'aurait peut-être sous-estimé pour payer moins d'impôts. Et donc ce genre d'astuce que Trump a pratiqué toute sa carrière comme promoteur immobilier, en fait, c'est ça que le Congrès en partie voulait exposer. L'autre chose, c'est il y a la possibilité de paiements illégaux à travers son avocat pour l'actrice de films pornographiques dont il a acheté le silence. Et là, en fait, si ça s'est démontré, et donc ça devrait normalement apparaître dans les comptes, ça serait illégal par rapport à la loi sur le financement politique, le financement des campagnes électorales. Et en fait, Trump, d'une certaine manière, remporte une victoire à court terme parce que il va pouvoir aller à l'élection sans avoir, jusqu'à là, a priori, il n'aura pas transmis les documents, ou plutôt ses comptables ne les auront pas transmis. Mais d'un autre côté, le soupçon qui pèse sur lui va être utilisé par les démocrates dans la campagne. Ce qu'ils pourront dire, c'est, pour laver le soupçon, que Trump décide de lui-même de publier ses déclarations d'impôts, ce qu'il ne fera pas.
Alors justement, peut-être pour conclure, Paul Scholl, Trump, on le voit depuis plusieurs semaines déjà, est assez affaibli. Peut-être cette nouvelle décision, ces deux nouvelles décisions, portent un nouveau coup dans cette tendance finalement à perte de vitesse de Trump dans cette course à la présidentielle ?
Je pense que oui. Alors évidemment, l'élection c'est en novembre, il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais un des arguments de Trump qu'il utilisait dans ses meetings de campagne, encore récemment son meeting à Tulsa, c'était de dire qu'il allait, bon, ce qu'il a beaucoup fait, de nommer un nombre de juges conservateurs dans les tribunaux, en particulier bon, à la Cour suprême et dans les cours fédérales, avec l'idée que même quand il serait plus président, pour une partie de ces juges qui sont nommés à vie, c'est quelque chose qui resterait. Et ce qui apparaît là, c'est qu'en fait, il n'a pas de contrôle sur ce que font les juges une fois qu'ils sont nommés. Et du coup, cet argument qu'il utilisait en disant qu'il était lui-même une sorte de rempart contre la gauche, parce qu'il nommait des juges conservateurs, cet argument-là aussi est affaibli. C'est une sorte de dommage collatéral, mais il est aussi affaibli par ces deux décisions.
Merci en tout cas pour ces explications, Paul Scholl.
Merci à vous.
Paul Scholl, maître de conférences en histoire et civilisation américaine à l'Université Paris Diderot, répondait aux questions de Véronique Guémard. Place à présent à la revue de presse des Amériques. Romain Le Maresquier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous en parlions il y a quelques instants avec notre invité Romain. La Cour suprême américaine valide la demande d'un juge new-yorkais qui réclame les déclarations d'impôts du président Donald Trump.
La justice a décidé que le président n'était pas au-dessus des lois, titre ce matin le Washington Post, ou encore la justice rejette les demandes d'immunité de Trump en une du New York Times. Et c'est le minimum que pouvaient attendre les Américains, estime l'éditorialiste du quotidien new-yorkais. Ça, c'est pour ce qui est des bonnes nouvelles, explique-t-il. La mauvaise, c'est que le président a encore une fois trouvé comment se jouer du système juridique, car la Cour suprême a bloqué pour l'instant le transfert de ses documents au Congrès, ce qui signifie que les Américains iront voter en novembre sans savoir ce que cachent ces fameuses déclarations. L'éditorialiste du Washington Post ose quant à lui une comparaison de cette décision avec la sortie prochaine du livre de Marie Trump, la nièce du président. Un livre qui détaille comment Donald Trump a fait usage de subterfuges pour se hisser au niveau où il est et comment il a toujours été à même de se protéger des conséquences de ses actes. Cette fois, explique l'éditorialiste, il bénéficie de la protection suprême malgré cette décision des juges.
Et nous restons avec vous aux États-Unis, avec l'État de Californie qui a décidé d'attaquer en justice la décision de l'administration Trump, décision de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée.
Oui, c'est le premier État américain à intenter une action en justice dans ce dossier. Auparavant, deux universités, Harvard et le MIT, lui avaient emboîté le pas. Cette décision, explique USA Today, est tout simplement jugée illégale par Xavier Becerra, le procureur de l'État de Californie. Honte au gouvernement Trump de non seulement menacer les chances des étudiants d'aller à l'université, mais aussi leur santé et leur bien-être en les obligeant à assister physiquement à des cours collectifs malgré la pandémie de Covid-19, écrit notamment Xavier Becerra dans un communiqué. Le procureur qui a tenu également à rappeler qu'il s'agissait là de la 86e procédure contre l'administration Trump.
Toujours concernant la Californie, les écoles et universités, Romain, le principal syndicat de professeurs demande à ce que les écoles ne rouvrent pas au mois d'août.
Oui, étant donné la progression de l'épidémie de Covid-19, un retour dans les salles de classe à la mi-août dans le comté de Los Angeles n'est tout simplement pas envisageable, expliquent les dirigeants de ce syndicat dans les colonnes du LA Times, un syndicat qui doit prochainement publier une note dans laquelle il compte détailler pourquoi les protocoles de retour en salle ne sont pas applicables. C'est donc vers une reprise des cours virtuels que se dirigent les étudiants californiens et plus vite la décision sera prise, explique le syndicat, plus vite les familles pourront s'organiser.
Tout autre sujet, la pandémie de coronavirus, les cas de Covid-19 se multiplient parmi les dirigeants sud-américains après le test positif du président brésilien Jair Bolsonaro.
Oui, même si elle dit se sentir bien et forte, hein, la présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Agnès, a été testée positive et va respecter une période de quarantaine de 2 semaines, peut-on lire en une de Los Tiempos. Dans un message vidéo, Jeanine Agnès explique avoir décidé de passer un test car les cas positifs se multipliaient dans le pays. 3 autres membres du gouvernement sont également ou ont été également atteints, la ministre de la Santé, celui des Mines ou celui de la présidence.
Autre dirigeant sud-américain qui a également annoncé être positif, c'est le numéro 2 du régime au Venezuela, Diosdado Cabello.
Oui, tout comme la présidente par intérim de la Bolivie, il va respecter une quarantaine, explique El Nuevo Herald. Le président Nicolas Maduro s'est fendu d'un message à son intention lors d'une allocation télévisée, lui assurant son soutien et sa solidarité avec sa famille. Le Venezuela, où comme en Bolivie, les cas de coronavirus ont connu une très forte augmentation ces derniers jours.
Enfin, avant de se quitter, Romain, un mot de cette enquête ouverte par le commissaire à l'éthique canadien au sujet d'allégations de conflits d'intérêts potentiels concernant le Premier ministre Justin Trudeau.
Oui, des membres de la famille du Premier ministre ont été payés par un organisme de charité qui avait été choisi par le gouvernement fédéral pour gérer un programme de bourse de 900 millions de dollars canadiens. L'accord a été annulé la semaine dernière, explique Le Devoir, à cause de la controverse sur les liens entre Justin Trudeau et l'organisme de bienfaisance de Toronto, UNIS. Il faut préciser que la mère du Premier ministre a été payée 250 000 dollars canadiens pour 28 apparitions à des événements et son frère 32 000 dollars pour 8 événements. Alors même si UNIS affirme que Justin Trudeau n'a jamais été payé pour des discours ou tout autre sujet, l'affaire est suffisamment grave pour qu'une enquête soit diligentée.
Romain Lemaresquier pour la revue de presse des Amériques sur RFI.
RFI, o mundo mais perto de você.
Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie a atteint un nouveau record avec une accélération de 25% au cours du premier semestre par rapport à la même période de 2019. C'est ce qu'annonce à l'instant l'Institut National des Recherches Spatiales. L'abattage d'arbres dans la forêt tropicale a touché 3000 km² en 6 mois. RFI à Cayenne, il est 10h25.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour, Benoît Ferrand.
Bonjour Adrien.
Un an après, on en sait un peu plus sur la mort de 3 militaires lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.
C'était le 17 juillet 2019. 3 militaires du 19e régiment du génie de Besançon trouvaient la mort dans une galerie creusée par des orpailleurs clandestins. Les résultats de l'enquête ont été révélés par le procureur de la République de Cayenne hier, Véronique Betz.
Ce jour-là, le groupe fouille opérationnelle spécialisé du 19e régiment de génie doit détruire des galeries et des puits dans le secteur de Saint-Jean-Petit à Bounami, à Papaïchton. À 11h30 puis 15h15, la galerie numéro 5 fait l'objet de deux destructions par explosif. Ensuite, à 16h, un sous-officier descend dans la galerie 6 avec des explosifs. La galerie est profonde de 70 mètres et elle est obstruée par un éboulement à 21 mètres de l'entrée. Un autre sous-officier le rejoint et constate que son camarade est inconscient. Il appelle à l'aide. 3 hommes vont descendre, puis 3 autres. Au final, 3 corps seront remontés et 5 militaires seront blessés, intoxiqués et évacués. Les pompiers ont utilisé des fumigènes pendant l'enquête. Il a été établi que la première galerie détruite, la numéro 5, correspondait avec la seconde, la numéro 6. Les gaz générés par les explosions le matin et en début d'après-midi ont pu rester stagnants dans les galeries et provoquer une intoxication. On rappelle que le monoxyde de carbone est inodore. Ces hypothèses ont été confirmées par les médecins légistes et par la Direction générale de l'armement. Les explosions génèrent bien du monoxyde de carbone.
Un tout autre sujet en Martinique avec l'usine du Galion, la seule et dernière usine productrice de sucre de canne en Martinique qui a présenté hier le bilan de la campagne sucrière 2020, saison qualifiée d'assez bonne. Grégory Gabour.
38 708, soit le nombre de tonnes de canne broyées à l'usine du Galion cette année. C'est 15 000 tonnes de plus qu'en 2019 et près de 7 000 de plus qu'en 2018. Mais cela reste encore insuffisant au regard des besoins en canne de la sucrerie. 100 000 tonnes, nous disaient ce matin Philippe André et Richard Barthélery, respectivement directeur général de la société et président du conseil d'administration. Alors ça, c'est pour les volumes. Qualitativement parlant, le bilan est encore meilleur. Un indicateur, le coefficient de paiement, qui révèle en quelque sorte la teneur en sucre des cannes. Eh bien, ce coefficient est supérieur à 8, chiffre au-dessus de la moyenne. Se sont encore félicités Philippe André et Richard Barthélery. Richesse en sucre qui s'explique en grande partie par le temps ensoleillé de ces derniers mois. Mais on le disait, quantitativement, l'usine espère faire beaucoup mieux Pour augmenter sa production, la direction entend s'appuyer sur des particuliers ou professionnels pouvant mettre une partie de leur terre exploitable à sa disposition. L'usine préfinancerait ses éventuelles plantations. La société dit avoir déjà obtenu une quinzaine de réponses positives.
8, cela veut dire 80 kilos de sucre par tonne de canne récoltée. Bon après-midi, bon week-end, Adrien, à lundi.
Merci Benoît, bonne journée Benoît Ferrand. Ainsi s'achève le journal des Amériques, diffusé sur RFI, réalisé aujourd'hui par Tiffany Menta, Hélène Avril. Merci à L2. Dès lundi, derrière ce micro, Anne Verdaguet pour un nouveau journal des Amériques. Bonne journée à toutes et à tous.